Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, nos auditeurs fidèles ont peut-être été surpris d'entendre le générique de Trou Noir à cette heure-ci, d'autant plus qu'il y a déjà eu l'émission Trou Noir habituelle 16h-18h. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons Nedjib de retour d'Algérie. Et John nous a très gentiment donné son créneau chronique d'ailleurs pour cette émission Trou Noir exceptionnelle.
Oui, donc Monique a bien expliqué dans quel cadre on fait cette émission. Donc on a souhaité effectivement trouver un créneau pour donner la parole à Nedjib Sidi Moussa qui est venu nous voir juste avant justement un départ pour 3 semaines en Algérie et qui est revenu je crois à peu près depuis une semaine, puis le 31 mars. Donc je rappelle pour les auditeurs, et on peut écouter cette émission bien sûr sur notre site, hein, et on était venu nous à la fois nous parler de l'actualité en Algérie telle qu'il la voyait avant de partir là-bas, mais surtout présenter son livre qui s'appelle « Algérie, notre histoire de l'indépendance, trajectoire révolutionnaire des partisans de Messaliage », qui est sorti donc là, et qui est sorti aussi en Algérie, et c'était pour ça d'ailleurs, enfin je pense que tu confirmeras que tu avais prévu ce séjour, et il se trouve effectivement que l'actualité a fait, tu t'es retrouvé en plein mouvement social, en pleine brejolissoire peut-être, je ne sais pas, hein, voilà. Donc il y a Mohamed qui est avec nous, comme d'habitude, avec grand plaisir, d'autant plus qu'il a participé justement avec les émissions avec Nedjib. Donc on va un peu te demander tes impressions. Je rappelle quand même pour les éditeurs que c'est quand même un mouvement qui dure, qui dure donc, c'est-à-dire on était au 6e vendredi, je crois, le 29 mars dernier, un mouvement qui concerne beaucoup, beaucoup de personnes, aussi bien en Algérie, mais un peu partout, dans la plupart des villes, des wilayas d'Algérie. Un mouvement où il y a énormément de jeunes, énormément de femmes, enfin bon, je ne veux pas entamer sur ce que tu vas nous raconter. Juste avant de te passer la parole, alors peut-être c'est... Bon, j'ai quand même essayé de voir ce qui se disait. Bon, j'ai quand même trouvé quelques sites d'information, voire de journaux, qui donnaient en tout cas ce qui était écrit sur les pancartes, quelques interviews. Donc j'en vois une qui m'a bien plu, et puis je te passe tout de suite la parole après. Je me rappelle plus, c'est une personne qui était interviewée dans la rue, un jeune. On a tellement de choses à montrer au monde, on veut reprendre le contrôle sur notre pays. Avec ce moment, on veut se retrouver ensemble, discuter politique et donner notre avis. On écrit une nouvelle page de notre histoire. Bon, c'est sans doute une vue un peu euphorique, mais bon, l'euphorie, je crois qu'il doit y en avoir. Donc, qu'est-ce que tu as pu voir là-bas, déjà dans les manifestations et au-delà? Bon, tu as certainement aussi fait des présentations de ton livre, donc tu as eu un peu sans doute des interrogations sur ce livre, mais aussi sur la situation. Voilà. Donc on est très content de t'avoir, je te le dis tout de suite. On avait pris rendez-vous d'ailleurs avant ton départ en disant que ce serait super si tu pouvais revenir après.
Voilà. Oui, merci pour l'invitation. Effectivement, on s'était vu la veille de mon départ pour Alger.
Alors, et tu avais eu la gentillesse d'ailleurs de ne pas déplacer ton départ parce que tu étais engagé. Je t'avais remercié publiquement et je te remercie encore.
Non, mais c'était important pour moi, non seulement de tenir mon engagement et ma parole, parce que tu as fait partie des premiers à m'inviter pour, sachant que mon livre allait sortir. Ça me permet aussi de préciser une chose. Alors, je ne suis pas parti en Algérie pour mon bouquin.
Ah, d'accord.
Même si il est sorti, effectivement, il devait sortir à cette période-là. Disons que mon livre, je crois que je l'avais déjà un peu dit la dernière fois, c'est sûr que ça représentait beaucoup pour moi en termes de travail et autres, ou de perspectives de travail, sans en dire davantage. Mais c'est surtout ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, d'accord, ce qui s'est passé depuis le 22 février, qui a fait que je suis parti un peu précipitamment, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui me retenaient, et que je ne suis pas non plus le seul de ce qu'on peut appeler soit les franco-algériens, soit les Français d'origine algérienne, soit les Algériens de France ou la diaspora, à avoir fait ce voyage, étant donné les circonstances exceptionnelles. J'ai pu moi-même le voir sur place. D'ailleurs, bon, peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais je voulais juste préciser que voilà, je suis resté une dizaine de jours, pas trois semaines. J'aurais aimé de rester trois semaines. Et pour moi, voilà, je ne pouvais pas rester à Paris, me rassembler sur la place de la République avec une partie de la diaspora le dimanche. Un peu piétiner, un peu tourner en rond, discuter ou répondre à des sollicitations, alors soit d'amis ou de compagnons ou de camarades comme ici, ou alors d'autres médias qui me sollicitaient. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut être sollicité d'un coup, étant donné une actualité, alors que l'Algérie, qui est pourtant, il me semble, une question importante au point de vue historique et politique, du point de vue français, me semble une question ou un pays relativement sous-traité ou maltraité, notamment à gauche ou à la gauche de la gauche. Ce qui ne veut pas dire que certaines publications ou certaines personnes ne sont pas, n'ont pas une analyse ou n'ont pas des perspectives intéressantes à ce sujet. Mais cela me semble insatisfaisant. Cela m'a semblé insatisfaisant. Peut-être que il y aura une décantation ou une ouverture de ce point de vue-là, mais bon. Donc mon séjour, alors je ne sais pas par où commencer, il s'est étalé, donc, comme je le disais, sur une dizaine de jours. J'ai voulu partager ce moment historique avec les Algériens, avec mes amis, avec des camarades ou des compagnons qui sont essentiellement à Alger. Et j'ai voulu aussi sentir cette atmosphère, voir de mes yeux ce que peut-être ne transparaissait pas dans les comptes rendus de la presse. Et surtout avoir des discussions donc avec en particulier des militants de gauche ou de la gauche de la gauche, qui est un microcosme, qui est un petit milieu à Alger pour des raisons historiques, notamment en raison de la longue histoire de répression, en raison de l'hégémonie des conservateurs, des islamo-conservateurs, et aussi du fait que les néolibéraux, les capitalistes ont relevé la tête au cours de la dernière période et sont en train d'avancer leur agenda et leur pion, y compris dans cette configuration. Donc j'ai voulu revoir mes amis, discuter avec eux des perspectives, de ce qui se passait, sachant que moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait de l'auto-organisation, s'il y avait une effervescence au niveau social et démocratique en dehors des démarches du vendredi, puisque il me semblait que dans les médias français, les médias se sont essentiellement focalisés sur ce qui se passait le vendredi, donc des marches qui sont spectaculaires. Alors peut-être que je reviendrai un petit peu dessus, je vais pas me livrer un monologue ce soir, mais il s'est passé et il continue de se passer beaucoup de choses en dehors du vendredi. Et c'est peut-être là que les choses vont se jouer de mon point de vue.
Voilà. Comment t'as ressenti à ton arrivée à Alger l'ambiance qui pouvait y régner? J'imagine que tu as dû faire ces dernières années beaucoup d'allers-retours entre Paris et Alger. D'ici, on avait l'impression que, on l'a dit hein, dans la précédente émission qu'on a fait ensemble, il y a eu des mouvements au long de ces 20 dernières années de règne de Bouteflika et de sa clique. Il y a eu des manifestations, des grèves, des mouvements sociaux. Il y a eu des mouvements même qui ont été très sévèrement réprimés, comme le printemps noir de Kabylie en 2001. Mais on avait quand même l'impression, surtout après les événements du printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe en 2011, on a l'impression qu'il y avait une espèce de chape quand même qui était posée sur l'Algérie. Et moi, je me souviens qu'en 2011, lorsqu'il y a eu quelques manifestations à Alger, à la fois des manifestations de soutien à ce qui se passait à Tunis et puis ensuite au Caire, mais aussi certaines revendications étaient remontées, il y avait des mouvements de qui commençaient à émerger. Tout de suite, le pouvoir algérien à ce moment-là a tout bloqué. Et puis, c'était une période où le pétrole avait quand même valait encore assez cher sur le marché international, et le gouvernement algérien a distribué comme ça de l'argent pour essayer d'éteindre le mouvement social. Comment tu as ressenti, et là je parle vraiment d'un point de vue purement émotionnel, sentimental presque, hein, l'ambiance quand on arrive dans une capitale en effervescence depuis presque un mois. Quelles sont tes premières impressions?
Ben c'est simple, hein. En arrivant, donc le taxi qui m'a amené au centre-ville où j'ai logé quelques jours, la circulation était complètement bloquée. Alors pour ceux qui connaissent Alger, l'hypercentre, c'est entre, on va dire, la Grande Poste et la place Audin, et entre deux il y a la fac centrale. C'était bloqué parce que il y avait deux rassemblements, si je me trompe pas. À ce moment-là, il y avait le personnel de santé qui était également mobilisé, et aussi les étudiants. Et alors c'était évidemment émouvant. Bon, je pouvais pas, donc je suis descendu avec ma valise et mon sac, comme tout bon touriste qui se respecte. Et j'ai remonté l'avenue pour me diriger vers la place Maurice Audin, qui était occupée par les étudiants qui défilaient joyeusement en scandant des slogans contre le pouvoir. Et ça contrastait complètement avec l'Alger tel que je l'avais vu il y a un an, quasiment jour pour jour, où dans une espèce de fatalisme, les gens se préparaient à un cinquième mandat, avec un président qui était dans l'état de santé qu'on connaissait, et qui avait choqué aussi beaucoup d'Algériens, puisqu'à cette époque, il avait inauguré une mosquée qui avait été rénovée par les Turcs. Et quand il avait été sorti de la mosquée sur son fauteuil, il avait encore des chaussons en plastique bleu. Et ça avait, je sais pas si les gens se souviennent de cette image-là, mais ça avait causé une sorte de blessure narcissique, puisque ça voulait dire qu'en gros, il n'avait plus toute sa tête, et que celui qui dirige l'Algérie, en fait, n'est plus capable de le faire. Je me souviens très bien des réactions indignées ou choquées de beaucoup d'Algériens à ce moment-là, et aussi, hein, beaucoup de mes amis, ou en tout cas certains de mes amis qui étaient sur place, songer à quitter le pays. Hein, d'ailleurs, c'était ça. Hein, le discours dominant, c'est que il n'y avait plus rien à faire, que cette société était fermée, était bloquée, et que pour ceux qui avaient des enfants, ils ne les voyaient pas les élever sur place. Bon, inutile de dire que ça a complètement changé. L'état d'esprit a complètement changé. Ceux qui avaient des discours complètement catastrophistes ou démoralisés, et on ne pouvait que les comprendre, maintenant ils discutent de la suite, discutent de projets, ont retrouvé le sourire dans tous les sens du terme, et une certaine combativité. Ça, c'est quelque chose qui est prenant, qui est immédiatement saisissable, en tout cas qui l'était complètement, donc le jour de mon arrivée le 19 mars. Pour moi, ça a été le séjour le plus émouvant, le plus passionnant que j'ai pu faire durant ces dernières années à Alger. Donc, oui, vas-y.
Quels étaient les mots d'ordre à ce moment-là? Tu arrives donc le 19 mars, on ne sait pas encore très bien comment ça va évoluer, on est encore dans une perspective très, très floue. Quels sont les mots d'ordre qui rassemblent les manifestants? Qu'est-ce qu'ils réclament, donc le départ de Bouteflika?
Oui, parce qu'à ce moment-là, on en est là, parce que le président a attendu que je rentre à Paris pour démissionner, pour annoncer sa démission. Mais oui, en fait, on est encore dans cet état d'esprit. Hein, donc il y a encore une forme de communion nationale, d'unanimisme, hein, d'ailleurs sur lequel on pourra revenir après, parce que ça pose quand même de sérieux problèmes au plan politique, au plan des perspectives qu'on peut dégager. Donc on en est encore là. Pas de répression encore, hein, tout à fait dans les la rue et peut encore être occupée les jours de semaine, et j'ai pas encore parlé du vendredi, on en parlera sans doute après. Donc il y a des aspirations, alors chez les étudiants, ce qui s'exprimait aussi, hein, ça a été répercuté par la presse, c'est le fait qu'ils ont envie de vivre dans ce pays. Donc notamment, il y a tout le problème qui se pose, alors c'est au niveau international, mais en particulier au Maghreb, le cas des diplômés chômeurs, oui. Des personnes qui vont à l'université, qui décrochent un master, éventuellement plus, et qui ne trouvent pas de travail ou de travail à la hauteur de leur qualification. Donc, ce qui fait qu'il y a tout un pan de la société qui est soumis à la précarisation, au travail déqualifié, et ce qui crée aussi légitimement une certaine forme de frustration. Donc, on a chez les étudiants le lien qui a été fait. Et qui n'est pas évident d'ailleurs chez beaucoup d'Algériens, il faut être clair là-dessus, entre d'un côté l'exigence politique de rompre avec le régime, de chasser Bouteflika, donc on est encore au 19 mars, et aussi une certaine forme de liaison avec la question sociale, celle de trouver du travail, celle de vivre dans ce pays et de s'y projeter, et de ne pas être condamné à l'exil finalement. Donc d'être diplômé, de partir en France, au Canada, ou dans n'importe quel autre pays où on peut avoir un visa et se priver. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fort chez les étudiants, qui est avec la jeunesse. Alors quelle jeunesse, on pourrait en discuter, est clairement une des forces motrices de ce mouvement. Voilà. Ils ont donné le ton, donc ils s'organisaient là où il y avait des possibilités sur leur campus, donc dans leur cité universitaire, même s'il y avait des limites par ailleurs, et qui ont pris l'habitude d'occuper la rue le mardi, donc de sortir dans les rues le mardi. C'était le mardi, c'est le jour des étudiants, quoi.
Il y a tu as parlé des étudiants, est-ce qu'il y a d'autres forces politiques, alors ça peut être des partis, des syndicats, des mouvements sociaux, associatifs, qui à ce moment-là s'expriment ou portent la parole d'une partie de la population? Est-ce qu'il y a des mouvements, je dirais pas catégoriels, mais du moins qui par exemple, est-ce que la parole des ouvriers, des employés, à ce moment-là, elle est présente? Est-ce qu'elle est reconnaissable? Est-ce qu'on l'entend? Et à travers quelle, si jamais elle existe, par travers quel canot elle passe?
Oui. Alors, il y a ce qui s'est mis en place en fait assez progressivement, c'est que la semaine s'est subdivisée en le nombre de jours que compte une semaine, et donc entre chaque vendredi, disons que chaque catégorie socioprofessionnelle, enfin chaque, pas toutes évidemment, mais des catégories socioprofessionnelles particulières ont occupé un créneau. Donc ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnels de santé, il y a aussi les magistrats, aussi les avocats, voilà. Qui sont sortis, je les ai vus aussi dans la rue, une catégorie de fonctionnaires, etc. En revanche, les ouvriers, peu importe la définition qu'on donne là-dessus, pendant en tout cas mon séjour, il n'y a pas eu de manifestation distincte, en tout cas pas à ma connaissance, hein. Je ne veux surtout pas dire de bêtises, mais ce qui se passe, ou ce qui est en train de se passer, c'est que, notamment dans la centrale syndicale qui est majoritaire, enfin c'est la centrale historique liée à l'État qui s'appelle l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, il y a un mouvement de contestation en son sein, et qui vise, hein, parce que le mot d'ordre général de ce mouvement, c'est de tous les dégager, et qui cherche à dégager le secrétaire général, qui s'appelle Abdelmajid Sidi Saïd, qui est quelqu'un qui a fait campagne pour le cinquième mandat de Bouteflika et qui a bridé, hein, pendant toutes ces années, mais comme l'UGTA, hein, est là pour... il joue le rôle de pompier social et qui vise à éteindre toute forme de contestation et à empêcher toute expression propre des travailleurs. Hein, donc l'UGTA, ça sert à ça. Ça sert à canaliser, à verrouiller la contestation.
Justement, je voulais te poser une question là-dessus, ouais. Sur exactement ce qu'a soulevé Mohamed, justement sur l'UGTA, parce que j'ai deux expériences bon, qui personnel, mais enfin, où j'ai eu des contacts avec des ouvriers algériens qui étaient en France et qui étaient partis là-bas avec l'espoir, justement, d'enlever cette chape de plomb qui était le FLN à l'intérieur du GTA. Une autre expérience aussi, il y avait eu des contacts, par exemple, entre le GTA et la CFDT à l'époque, à cette époque-là, où il était clair que l'interlocuteur, c'est la FLN, quoi. Ils voulaient bien aider à ce qu'il y ait des gens qui s'organisent à la CFDT, mais ils auraient été contrôlés par le FLN. Donc je pense que ça n'a pas dû s'arranger depuis cette période-là. Donc est-ce que... Alors c'est peut-être difficile, ça peut pas rester assez longtemps, mais est-ce qu'au sein, justement, des gens, le GTA, au-delà de, bon, on a quelqu'un qui a la tête, cette emprise du FLN, qui est quand même un truc fondamental pour réussir à créer quelque chose qui soit vraiment dans les mains des ouvriers, est-ce que la question est posée? Enfin, t'as peut-être pas eu le temps de...
Non, mais j'ai eu des échos. Alors c'est pas que le FLN, hein, le GTA, hein. Il y a des... Je vais pas rentrer non plus dans les jeux politiques de qui contrôle le GTA. Il y a des liens aussi avec un autre parti de l'administration qui est le RND, le Rassemblement National Démocratique, qui est une, on va dire, selon l'expression consacrée en Algérie, un bébé né avec les moustaches, en fait, qui est sorti un peu de nulle part et qui, au moment où, d'ailleurs, pendant la guerre civile, au moment où le FLN traversait une crise, eh bien, ce parti qui justement ne pouvait pas, de par sa constitution, être sujet à une toute forme de contestation du régime ou de la politique du régime à ce moment-là, eh bien, a émergé, a raflé la majorité des sièges, donc à la fin des années 90, et aujourd'hui, il fait partie des deux partis de l'administration avec le FLN. Donc bon, c'est juste pour apporter une petite précision qui n'est pas majeure, mais ce qui est clair, et là il y a des éléments qui sont avérés, qui sont dans la presse, des choses aussi qu'on m'a rapportées, c'est que donc il y a un mouvement de contestation de la part de certaines sections locales et de certaines fédérations qui sont un peu plus combatives et qui poussent pour qu'il y ait un congrès extraordinaire de l'UGTA pour chasser la direction actuelle. Sauf que, bien sûr, les bureaucrates, on ne les chasse pas comme ça. Ils peuvent être prêts à faire un congrès extraordinaire, mais à condition de le verrouiller. Donc là, c'est ce qui est en train de se jouer. Et je voulais aussi rapporter deux anecdotes. C'est donc la veille de mon départ, donc le 30, samedi 30, il y a des syndicalistes dissidents donc de la direction et de l'UGTA. On cherchait à se rassembler devant le siège de la centrale. Ils se sont fait recevoir par des hommes de main de Cityside, donc avec des chaînes, couteaux, etc. Donc vraiment les méthodes mafieuses. Ils ont essayé de faire un autre rassemblement ce samedi, si je ne me trompe pas. Et là, ils se font recevoir par la police. Donc arrestation. Ce qui montre aussi qu'on est passé à un autre niveau, au niveau de concernant la répression. Il me semble qu'on est à un tournant de la mobilisation.
Voilà. Ce que tu dis est très très important parce que au-delà simplement des petites magouilles politiciennes et politiques, ça montre bien qu'il y a, jusqu'à maintenant, les contradictions sociales, les contradictions internes à certains secteurs de l'Algérie étaient cachées et on pouvait, si on connaissait bien si on avait les codes, on pouvait éventuellement en décoder certaines. L'intérêt de ce mouvement, c'est qu'elle les fait paraître au grand jour. Oui. C'est tout l'intérêt des mouvements révolutionnaires ou des mouvements qui remettent en question fondamentalement les structures d'un pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte et ailleurs. C'est qu'à un moment donné, les contradictions internes qui sont étouffées par la chape de plomb d'un pouvoir centralisateur et très fort, elles finissent par paraître au grand jour. Et ce que tu dis là, c'est vraiment c'est quelque chose archétypique même. Hein, et en même temps très intéressant du point de vue de l'analyse de la situation. Et c'est ça qu'on voit peut-être pas dans la presse mainstream, hein, dans ce qu'on peut lire aujourd'hui sur ce qui se passe en Algérie. On a l'impression qu'il y a une unanimité au sein de la population algérienne, et là on va revenir sur cette question de l'unanimisme, contre une toute petite portion de l'Algérie qui serait un État complètement détaché. Alors qu'en fait, ces contradictions, elles sont très profondes.
Oui, bien sûr. Et elles surgissent à la moindre occasion. Alors je pourrais peut-être raconter quelques anecdotes, mais toutes les questions, en fait, maintenant, sont posées sur la table. Qu'il s'agisse de la question sociale, donc qu'on a un peu évoqué, de la question culturelle, de la question sexuelle également, de la question religieuse. En réalité, c'est une période qui est extrêmement favorable pour pousser le plus loin possible toutes ces questions, les aborder, les traiter, puisque... elles ont, même si il est vrai qu'il y a toujours eu des espaces de discussion, mais ils sont restés confinés justement dans les marges. Et il n'y a jamais eu de grands débats publics et contradictoires où les différentes tendances s'affrontent et défendent à visage découvert, donc sans porter de masque, sans être dans la réticence et dans la frilosité, avancent des perspectives soit révolutionnaires ou en tout cas à tout le moins progressistes. Aujourd'hui, il me semble que c'est un mouvement favorable. En tout cas, ça l'était. Est-ce que ça le sera encore? Je ne sais pas. Il faut suivre là vraiment jour après jour et heure après heure les événements. Sauf que, justement, les organisations, les groupes ou les partis qui sont censés parler au nom des classes populaires et qui se réclament de la gauche, voire de la gauche, sont justement elles-mêmes dans un état de faiblesse ou de sclérose ou de peur ou d'attentisme, que ça, c'est assez compliqué et c'est pas forcément d'elles, de ce côté-là, que ça viendra. Par exemple, j'ai vu passer un appel à la grève de la part d'un syndicaliste de la fonction publique, qui, c'est assez significatif, qui a dit surtout, on va pas mettre en avant des revendications socioprofessionnelles. On veut faire une grève politique. Mmh. Nous, on veut tous les chasser, mais on ne veut pas faire avancer la cause ou les intérêts des travailleurs, les intérêts particuliers des travailleurs, parce que ça viendrait briser cet unanimisme. À mon sens, ça pose un problème, parce que c'est au contraire un moment extrêmement favorable. D'ailleurs, il se trouve que dans certaines entreprises, notamment Algérie Télécom, si ma mémoire est bonne, il y a eu, la direction a lâché une augmentation de 13%. Ses salariés. Mais ça sert à désamorcer. Ça sert à désamorcer. Et idem, certains patrons de boîtes privées ont aussi voulu donner des jours de congé ou des augmentations pour désamorcer, pour empêcher qu'il y ait un conflit dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, c'est un moment extrêmement favorable pour être offensif, mais les forces qui sont censées le faire ne le font pas. Au nom justement de cet unanimisme, de ce nationalisme, de ce patriotisme qui est extrêmement, encore une fois, problématique.
Je voulais justement te poser une question là, dans tout ce que tu développes, mais on pourrait faire le parallèle, pourquoi pas avec les Gilets jaunes, je ne vais pas y parallèle artificiel, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des lieux? Apparemment, les lieux officiels, etc., sont vraiment assez verrouillés. Est-ce qu'il y a des lieux bêtement, quoi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des endroits dans les facs, ou est-ce qu'il y a eu une occupation où les gens peuvent discuter, quoi. Enfin, vraiment discuter, essayer de comprendre ce qui se passe, voir comment ils peuvent peser sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des lieux? Voilà.
Alors...
géographique, hein, des lieux.
Alors, il y a un lieu, moi, auquel où je suis allé, où je me suis rendu, parce qu'on m'y a invité. Donc, il y avait un groupe d'extrême gauche qui voulait organiser une discussion sur l'auto-organisation et l'assemblée constituante. Donc voilà, c'était pas quelque chose de... Je peux en parler parce que c'était ouvert, donc dans un lieu ouvert. Et donc c'était dans un parc, le parc de la Liberté, un peu au-dessus de quand on remonte la fameuse avenue Didouche Mourad et avant d'arriver au Sacré-Cœur d'Alger, pas de Paris. Et en fait, voilà, c'est une amie qui m'a informé. J'arrive sur place et je vois un rassemblement de plusieurs dizaines de personnes. Et là, je me dis, mais c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dizaines de personnes à Alger, aujourd'hui, prêts à discuter d'auto-organisation et éventuellement de constituante, qui est un mot d'ordre qui ne m'emballe pas trop, mais on pourra en discuter après. Mais j'ai quand même un doute, parce que je vois qu'ils sont assez bien habillés, je vois une caméra, etc. Bon, j'appelle ma pote. Je lui dis, oui, mais vous êtes bien à droite, là, à l'entrée. Elle me dit, ah non, c'est pas nous, là, c'est pas nous. En fait, c'est Nabni. Nabni, c'est une sorte de think tank démocrate néolibéral qui donne la parole aux cadres, les architectes, les ingénieurs, les diplômés, et qui, justement, font un travail depuis quelques années. Ils ont essayé d'orienter en fait l'État et le régime en faisant des notes de prospective ou d'analyse, qui sont toujours dans une veine néolibérale et démocrate, mais pas trop quand même, faut pas abuser. Et là, donc,
Il a failli y avoir un gros malentendu, donc j'ai failli me fondre dans la masse, cette masse des néolibéraux. Mais ce qui montre qu'eux s'organisent, ont occupé un espace et ont fait des débats publics. Donc non, mais c'est assez intéressant. Donc moi, je suis monté, parce qu'on m'a expliqué que c'était pas là, et on s'est retrouvés, bon, pour le coup, une petite dizaine. Mais ce qui montre bien aussi le rapport de force aujourd'hui, hein. Faut être tout à fait réaliste. Mais on a eu une discussion passionnante sur l'auto-organisation, on essayait de partager des éléments d'information, quelle analyse on faisait. Donc on était plutôt d'accord pour défendre plutôt le mot d'ordre d'auto-organisation, donc des comités de quartier, d'usines, etc. Mais pour le moment, il nous semblait tout de même que ça restait des mots d'ordre, que ça n'a pas encore pris.
Oui, il n'y a rien de concret, il n'y a voilà. pas, je sais pas, un lieu qui est occupé, ben, qui est souhaité, une université où on n'arrête pas de discuter,
Mais justement, la question de l'occupation de la grève, c'est assez compliqué. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'occupation de lieu public. Alors que, bon, je le dis, je peux le dire, l'UGTA était facilement prenable il y a quelques jours encore. Mais je dis pas ça pour donner des idées à mes camarades à Alger, hein, mais parce que sachant qu'aujourd'hui, justement, comme on est maintenant, on est passé dans un climat un peu plus répressif, il me semble que le siège du GTA ne sera pas aussi prenable qu'il l'était il y a encore quelques jours. Mais juste pour terminer là-dessus, donc effectivement, donc ce parc là semblait. Alors, est-ce qu'il va encore l'être? Je ne sais pas, parce qu'il me semble qu'on est en train de fermer l'espace public. Et j'espère qu'il y aura une résistance de la part de la population. Mais il commençait à avoir ici ou là des espaces de discussion, pas encore contradictoires, mais les gens se retrouvaient. Et tu voulais peut-être dire quelque chose avant, je pourrais donner une autre anecdote. Et une autre anecdote aussi, c'est que, sur le Théâtre National d'Alger, il y a des rassemblements d'artistes, alors, auxquels moi je n'ai pas participé, mais qui ont fait des sortes d'assemblées générales ouvertes à tous. Hein. Et là encore, c'est assez inédit, puisque je rappelle peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Alger ou l'Algérie, jusqu'en février, c'était inimaginable de se retrouver à plus de 10 personnes, même à plus de 5 personnes, sur les marches d'un lieu public ou dans un parc, sans se faire arrêter par la police. Hein. Faut être clair là-dessus.
Il y avait l'état d'urgence. Hein.
Ah oui, en plus. Mais même, une fois que l'état d'urgence a été levé, Alger restait une ville fermée à les manifestations, ou aux rassemblements, ou aux attroupements, comme on dit. Hein. Il suffit d'être plus de deux ou trois pour que ce soit qualifié d'attroupement. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je tenais à dire également que avant de partir, hein, un pote m'avait donné rendez-vous devant la Grande Poste, qui est aussi un lieu de rassemblement et de contestation. Très vite, un policier en civil est venu pour me dire que j'avais pas à être devant les marches. Et donc il m'a invité très gentiment à aller attendre mon ami plus loin. Ce qui veut dire que le contrôle policier n'est jamais réellement tombé. C'est-à-dire qu'ils ont autorisé ou en tout cas de degré ou de force, je ne sais pas, ils ont fait preuve d'une certaine clémence pour certaines manifestations, mais ça n'a pas été le cas tout le temps, même durant mon séjour. Là, je tenais à la rappeler. Mais ce que je voulais dire, hein, c'était l'anecdote sur ce que j'ai vu sur les marches du Théâtre National d'Algérie, donc qui était un lieu de regroupement pour les artistes. Moi, je répète, hein, j'ai pas assisté à cela. J'ai assisté à une forme de performance. Enfin, c'était donc des militants, notamment une militante féministe, qui a appelé à un rassemblement pour réciter de la poésie, pour lire de la poésie. Moi, je pense que dans ces moments-là, la poésie a toute sa place. Donc, je suis arrivé, on était une dizaine de personnes. Et puis, petit à petit, 15, 20 personnes, 30 personnes. Alors, les organisateurs étaient essentiellement des militants de gauche, hein, féministes notamment, etc. Plutôt francophones, il faut le préciser également. Alors, moi-même, je suis francophone. Et très vite, donc des passants se sont arrêtés. Donc, ça a commencé à faire un peu masse. Et j'ai entendu de la part de ces nouveaux arrivants une forme de ressentiment et de colère. Et eux parlaient en arabe. Ils disaient qu'ils comprenaient pas ce qui se disait. Ils comprenaient pas les poèmes qui étaient récités en français. Et à un moment donné, donc un des types a commencé à s'énerver, à s'agacer. Et donc pour déminer, pour éviter qu'il y ait un incident, donc l'organisatrice l'a invité à monter sur les marches et à prendre la parole. Et là, il a commencé à s'adresser donc à nous, en tout cas à l'assistance, en disant « Mais vous avez, en arabe, hein, mais vous avez la mentalité du colonialisme, vous parlez en français, L'arabe, c'est la langue du peuple. Après tout, on est tous arabes, on est tous musulmans. Et c'est vrai, on est aussi tous berbères. Et là, quand il a commencé à dire ça, il y avait une jeune femme qui était à mes côtés, qui commence à dire en français aussi, à dire à ses proches, « Oui, mais si ce type commence à nous sortir la question identitaire, moi, je me casse. J'ai rien à faire ici. » Et moi, je lui ai répondu, « Non, mais au contraire, reste. Parce que dans cette configuration, dans ce moment historique qu'on est en train de vivre, toutes les questions vont être mises sur la table, y compris... » Moi, je ne parle pas de question identitaire, y compris la question culturelle, y compris la question de la langue, du rapport à la langue, qui est extrêmement important, y compris qui peut permettre, d'une certaine manière, d'expliquer l'isolement de militants de gauche qui sont plutôt francophones, alors que la population est majoritairement arabophone. Ça, c'est...
Berbérophone.
Et berbérophone, effectivement. Mmh. Effectivement. Mais l'arabisation est, en tout cas, bien un sûr. Phénomène qui est massif aujourd'hui, y compris dans les régions berbérophones, traditionnellement. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant parce que ça montrait la conflictualité et comment ces espaces qui sont improvisés, en tout cas qui sont extrêmement, qui sont investis d'une manière assez inédite, permettent à des gens assez différents de se rassembler, de discuter, de débattre, de ne pas être d'accord. Et moi ça me semble assez sain, c'est-à-dire que si ça se poursuit, ce que j'espère... Eh bien, il faut qu'il y ait de la contradiction, il faut qu'il y ait du débat et que des personnes sortent de leur certitude et que des milieux qui étaient pendant assez longtemps enfermés, repliés sur eux-mêmes à cause de la répression, à cause de plein d'autres choses, eh bien, s'ouvrent aussi à leur propre société et qu'il y ait un apprentissage mutuel du débat, de la contradiction. Voilà.
C'est très important ce que tu viens de souligner là et c'est... On va développer là-dessus.
Ouais, peut-être, je pense que Monique voudrait faire une petite pause musicale et après je passe la parole. Oui.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et je vais demander à Mohamed de nous dire ce que nous venons d'écouter, puisque c'est lui qui nous a apporté cette superbe pause musicale.
Oui, c'était Beja Rahal, une grande chanteuse algérienne qui est une principale interprète de la musique arabo-andalouse, qui est la musique classique d'Afrique du Nord. Alors, il y a plein d'écoles différentes, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, elle est de l'école d'Alger. Et on vient d'entendre un extrait d'une suite. On a dans le langage arabo-andalouse, c'est la nouba. Alors, en France, la nouba, ça a un côté festif, mais l'origine de ce terme, c'est dans la tradition de la musique arabo-andalouse, et cette nouba s'intitule Ramel El Maya. Juste avant la pause musicale, on parlait avec Najib, et Najib nous citait cette confrontation en public entre différents points de vue sur la langue, sur la culture, toutes les contradictions en fait qui sont internes à toute société et qui peuvent être soit niées lorsqu'on a affaire à un pouvoir dictatorial ou un pouvoir très très fort qui veut nier toutes les contradictions au sein de la société en disant voilà, on est tous unis et dans une direction qui est celle choisie par le pouvoir bien sûr, mais à un moment donné ces contradictions elles finissent par sortir et apparaître au grand jour, et ou alors on peut les discuter, et ce moment ce que tu viens de citer, c'est un moment très très fort et qui est justement provoqué, suscité lorsqu'il y a lorsque la crise apparaît, lorsqu'elle est vraiment évidente et que la population décide de sortir et de discuter. Alors c'est compliqué, hein, c'est pas facile. On sent bien qu'il y a des tensions, mais que ça vaut le coup d'en parler. T'as repéré d'autres moments comme ça de tension et de contradiction?
Oui, bien sûr. Alors, je pense justement que la contradiction, c'est très sain, et que notamment pour les personnes qui se réclament du mouvement anti-autoritaire ou libertaire ou anarchiste en Algérie, même si là encore ils sont minoritaires comme dans d'autres situations, je pense qu'il faut profiter justement de tous les cadres de discussion possibles, hein, même ceux a priori parmi lesquels on serait peut-être pas forcément à l'aise et où par définition on sera en minorité, mais je pense qu'on a on a des choses à gagner en avançant nos idées, nos idéaux, parce qu'il me semble qu'il y a quand même aujourd'hui une certaine forme de disponibilité, étant donné que le sectarisme qui a prévalu pendant très longtemps dans une certaine gauche, qui certes aujourd'hui est décomposé, mais disons que leur reste bouge encore, ils ont encore une capacité d'influence ou de nuisance, ça dépend des situations. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter d'ailleurs avec des militants léninistes ou trotskistes, hein. Moi-même je l'ai fait, et sur la question de l'auto-organisation, il y a des convergences possibles, mais sans faire de concessions, sans masquer son agenda, de toute façon, je l'ai jamais fait pour ma part. Et donc oui, étant donné l'évolution de la société algérienne, hein, qui n'est plus celle, évidemment, ni celle des années 60, ni celle des années 90, il me semble qu'on peut trouver des milieux, des espaces, à condition aussi nous-mêmes de faire des liens, de tisser des liens, de créer des situations et de pas cacher encore une fois son agenda ou ses idées. Voilà, il me semble que le moment était propice, hein, ce que j'ai vu en tout cas la conjoncture l'était, mais elle le sera plus encore si nous-mêmes on arrive à créer un rapport de force et à être intelligent dans cette situation. Donc les moments de contradiction ou de débat auxquels j'ai assisté, alors bon, pour la petite histoire, je suis parti à Alger le 19 mars parce qu'il se trouve que je contribue depuis quelques années à une série de livres collectifs qui s'appelle « Nous autres ». Donc à cette première séquence autopromo. Il y en aura une autre tout à l'heure avec CQFD, on ne l'oublie pas. Ouais. Donc c'est une série qui a été lancée par un poète qui s'appelle Amin Khan et qui en 2016 a voulu regrouper, donc au moment où c'est la démoralisation la plus totale en Algérie, où on semble qu'il n'y a plus de perspective possible, où c'est davantage l'exil et la désolation, hein, qui prime. eh bien, il décide de prendre contact avec des intellectuels, on va dire, plutôt de gauche, de diverses sensibilités, pour réfléchir sur ce que peut être une Algérie heureuse, comme il utilisait ces mots. Donc, déjà, Algérie heureuse en 2016, ça paraissait complètement loufoque pour beaucoup de gens. Donc, il m'a proposé, par l'intermédiaire d'un ami commun, de contribuer à cela. Donc, j'ai écrit des textes sur différents thèmes. Il y a toute une série de livres, au moins quatre, qui sont sortis depuis 2016. Et le dernier, c'est sur le thème, c'est travailler. Donc, c'est sur la question du travail. Donc, sachant qu'il y allait avoir une présentation dans une librairie de l'éditeur, c'est Shihab, la librairie est à Bab El Oued, située à Bab El Oued, et donc il y allait avoir une présentation suivie d'une discussion dans la librairie avec 4-5 contributeurs, je me suis dit, moi je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai aussi envie de parler, de profiter de cette occasion pour discuter directement avec le lectorat, avec le public, et défendre les idées que j'ai défendues dans mon papier, dans mon texte, qui est contre l'exploitation. C'est-à-dire que moi je suis contre l'injonction au travail, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je défends aussi le droit à la paresse. Et donc il y a eu un débat extrêmement intéressant entre les différents contributeurs, puisqu'il y avait d'une part, c'est pas la peine de les nommer, mais disons qu'il y avait une aile qui estimait par exemple qu'il n'y avait pas de capitalisme en Algérie, et une autre, au contraire, qui estimait, j'en faisais partie, qu'il y a un capitalisme en Algérie. D'ailleurs, un des intervenants, qui n'était pas moi, disait qu'en Algérie, c'est le capitalisme le plus sauvage et qui ressemble un peu à celui de l'ère post-soviétique, avec des oligarques, une exploitation forcenée, pas du tout réglementée. Et donc, ce débat était intéressant. Est-ce qu'il y a un capitalisme ou pas en Algérie ? Mmh. Et plus largement, c'est est-ce qu'il existe sur cette terre des espaces où il n'y a pas de capitalisme et où nous-mêmes, où nos consciences ne sont pas colonisées par le capitalisme ? C'est ce que j'ai avancé pour ma part. Et donc, partant de là, de l'analyse de la situation, les perspectives divergent. Donc ceux qui estimaient, par exemple, qu'il n'y avait pas de capitalisme en Algérie, défendaient une solution de compromis, donc gouvernement transitoire, pas forcément constituante d'ailleurs, donc défendait une position responsable au plan politique, puisqu'il devait, selon eux, il fallait que les Algériens se confrontent au vide institutionnel en cas de vacances du pouvoir. Donc il fallait tout de suite qu'il y ait des représentants légitimes qui émergent de ce mouvement, et qui aussi que ce gouvernement transitoire prennent des mesures responsables au plan économique, puisque il y a le catastrophisme institutionnel et le catastrophisme économique, c'est-à-dire que les caisses de l'État sont vides, comme l'économie ne tourne pas avec les grèves, etc., et que le cours du pétrole n'est plus aussi haut qu'à l'époque où le gouvernement pouvait acheter la paix sociale, il va falloir prendre des mesures courageuses et donc prendre des mesures de rigueur, ce qu'on annonçait déjà avant le début du mouvement d'ailleurs. Et bien moi, je me suis présenté en tant que révolutionnaire irresponsable, c'est que je ne veux en aucune manière prendre part à une transition ou à une combinaison politicienne. Même le mot d'ordre de constituante, je l'ai dit, j'avais des réserves, et je l'ai dit également sur place à tous mes interlocuteurs, et je suis pour la grève générale, pour que la classe des travailleurs prenne conscience de ses propres forces et s'auto-organise partout où c'est possible. Bon, je pense que j'ai dû paraître un peu farfelu pour certaines personnes qui étaient là, mais au contraire, d'autres étaient assez réceptives à cet argumentaire. Donc voilà, il y a eu ces espaces-là, alors que c'est vrai, peut-être limités à des librairies, peut-être limités à des espaces intellectuels, etc. Mais il y a des débats partout, de la discussion partout. Je veux dire, depuis quand je suis arrivé là-bas, ça parlait partout, partout, partout. Dans les cafés, dans la rue, dans les bars, dans les librairies, les gens ne parlaient que de la suite, que du mouvement et que de la suite. Mmh. Alors avec beaucoup d'illusions, sur lesquelles, on pourrait peut-être un petit peu développer la question de l'unanimisme, du rôle de l'armée, du nationalisme, mais ça n'arrêtait pas de parler. Mmh.
Est-ce qu'il y a des, en dehors des espaces donc que tu as bien décrits, on voit bien que ce mouvement, il se développe à l'échelle de tout le pays. C'est pas uniquement concentré sur les grandes villes du littoral. C'est vraiment à l'échelle de tout le pays. Ça part vraiment d'une forme de ras-le-bol en fait, et puis d'indignation finalement, tout à fait compréhensible et légitime. Et puis c'était le coup de trop finalement, cette clique au pouvoir, un pouvoir vermoulu qui repose sur sur le mensonge et sur la prévarication. On voit qu'il y a des aspirations diverses, compliquées, et puis mettre en mots toutes ces aspirations, ça semble vraiment très difficile, délicat. Tu viens de nous donner un exemple entre deux conceptions du capitalisme ou du non-capitalisme présent en Algérie. Qu'est-ce qui peut éventuellement fédérer une bonne partie de la population? Je ne parle pas d'unanimisme, de fédération sur un projet collectif commun. Quels seraient les ressorts d'un tel projet, si tant est qu'il puisse exister? Quelles seraient les revendications et les modalités de mise en œuvre d'une telle, telle possibilité?
Il me semble que dans les mots d'ordre, dans les slogans qui étaient chantés ou scandés le vendredi, mais pas seulement, là encore, dans toutes les autres marches de différentes catégories socio-professionnelles, il y a une profonde aspiration à la dignité, à la justice sociale. Mais là encore, c'est pas propre à l'Algérie, c'est propre à tous les mouvements sociaux de par le monde, mais plus particulièrement aussi à ce qui s'est passé depuis les printemps arabes, depuis 2011. La notion de dignité a été souvent commentée, reprise. Et d'ailleurs, je me permets peut-être d'ouvrir une petite parenthèse, c'est notamment le rapport extrêmement ambivalent des Algériens au printemps arabe. Puisque la question classique, c'est oui, pourquoi il s'est rien passé en Algérie en 2011, alors que partout ailleurs ça a bougé. Bon, ça n'a pas bougé partout et ça n'a pas bougé de la même manière. C'est que justement, il y a eu, en raison de l'intervention occidentale en Libye, et puis après, bien sûr, c'est pas en 2011, mais après l'évolution de la situation en Syrie, couplée à la propagande du régime et à sa capacité justement d'acheter la paix sociale, même si je sais qu'en Algérie, mes amis et camarades avec qui j'ai discuté n'aiment pas cette expression, parce qu'ils pensent que quand on parle d'achat de la paix sociale, on évacue la combativité. Sauf que moi, je ne l'évacue pas du tout. Quand on achète la paix sociale, c'est qu'on a peur aussi. C'est qu'il y a une conflictualité et qu'il y a une offensive de la part de la population. Donc, je fais écho à des discussions. Et si on a des amis en Algérie qui nous écoutent, ils se reconnaîtront et je les salue, évidemment. Il y a eu, on va dire, un rapport extrêmement ambivalent des Algériens par rapport au printemps arabe. Donc, ils n'ont pas suivi, évidemment, au même rythme. Sauf que ça a quand même travaillé les consciences. Et ça se retrouve notamment dans cette exigence profonde de dignité, mais qu'on peut retrouver partout ailleurs, là encore, mais aussi avec le slogan « Le peuple veut la chute du régime », qui est typiquement le slogan de 2011. Et là, c'est vraiment repris, ça a été repris dans la rue, et il y a on pourrait faire une étude des slogans, il y a une stratification historique des slogans qui renvoient à la fois, on l'avait dit lors de la dernière émission, qui renvoie à la fois aux luttes, aux traditions de lutte nationale en Algérie. Alors il y a par exemple Pouvoir assassin, alors c'est le slogan ou le chant qui a été scandé en 2001 lors du printemps noir de Kabylie. On a donc le peuple veut la chute des régimes, et d'autres qui renvoient justement à différentes étapes de la conflictuelle en Algérie, qui remontent parfois aussi à l'histoire du mouvement anticolonialiste, à la séquence de 62 et après. Donc on a toute cette continuité aussi, ce lien qui est fait entre la première révolution, la révolution anticoloniale, et celle d'aujourd'hui. Alors je peux peut-être dire aussi ce que j'ai vu dans les manifestations du vendredi en particulier, où les manifestants brandissaient des portraits de martyrs ou de dirigeants de la révolution, donc de dirigeants du FLN essentiellement, même si à Tlemcen, par exemple, il y avait des portraits de Messali.
C'est sa ville natale.
Voilà, ouais. tout à fait. Ce qui fait que, même si le slogan, je fais une petite parenthèse, c'est un texte que j'ai écrit pour le journal CQFD de ce mois, même si le slogan FLN dégage est extrêmement repris au sein de la population, chez les protestataires, ils font tout de même la distinction entre le premier FLN, donc le FLN historique, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons qu'il y a une vision un peu mythologique qui reste dans la conscience de la majorité de la population. Et donc font la différence entre ce premier FLN et le second FLN, qui pour eux est associé donc au régime dictatorial, corrompu, corrupteur, et plus encore au cours des dernières années, où c'est devenu le refuge d'hommes d'affaires, où des personnes ont acheté des sièges pour avoir l'immunité pendant quelques années et continuer à faire leurs sales affaires. Donc il y a un peu tout ça que j'ai vu dans les manifestations, même si on pouvait déjà le sentir ou le lire dans les articles, dans les comptes rendus ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec des gens qui étaient sur place ou qui en revenaient. Et ce lien justement entre ces deux révolutions, ou aussi entre ces différentes strates de contestation propres à l'Algérie, et également qui réinsère l'Algérie dans son environnement régional, c'est assez intéressant. Donc je l'ai dit pour le slogan, mais on peut également attirer l'attention sur l'appellation de ce mouvement. Hein, on l'appelle le Hirak.
Le mouvement, la voilà. Mouvance, oui.
Mais qui est, là encore, un mot qui est emprunté à ce qui s'est passé au Maroc. Oui. Donc la dans contestation le RIF, dans oui. le RIF. D'ailleurs, certains Algériens qui sont très nationalistes, qui ne veulent pas qu'on confonde leur très beau mouvement bien spécifique avec ce qui se passe ailleurs, ils n'étaient pas toujours d'accord avec cette appellation-là. Mais tout de même, c'est l'appellation qui est utilisée par beaucoup de contestataires. Donc, ce qui veut dire que ça circule, les choses circulent. Et tout à l'heure, tu hésitais d'ailleurs à faire une comparaison peut-être hâtive avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'en ai discuté sur place avec mes amis, donc notamment les contestataires qui ont beaucoup suivi le mouvement des Gilets jaunes en Algérie, sachant que évidemment, les Algériens restent très connectés, pour des raisons familiales ou autres, à ce qui se passe en France. Et ils suivent beaucoup ce qui se dit dans les médias français, la situation politique française. Il n'y a pas que les Algériens, d'ailleurs. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à creuser. C'est-à-dire, qu'est-ce que le mouvement des Gilets jaunes a occasionné ou provoqué en Algérie? Ça a été suivi. Et à mon avis, peut-être le parallèle le plus juste à faire entre les deux mouvements, c'est peut-être cette notion de dégagisme ou de méfiance des appareils politiques, des partis politiques, ça ressortait des articles de presse, c'est ce que j'ai pu voir sur place, c'est ce dont j'ai pu discuter aussi sur place avec des militants qui sont au sein de partis politiques ou qui activent en dehors des partis politiques, c'est la très grande réticence justement à l'égard des organisations. Pas forcément de l'organisation, mais des organisations politiques, qui, d'une manière ou d'une autre, restent associées à la débâcle actuelle, ou bien parce qu'ils ont contracté des alliances avec des partis du régime. Alors typiquement, c'est le cas du Parti des Travailleurs, qui avait conclu un pacte avec l'UGTA et aussi, selon les élections, avec les partis d'administration. Ce qui fait que, alors moi je ne cautionne pas évidemment des actes de violence faits à telle ou telle personnalité politique, mais il y a quand même une hostilité vis-à-vis à l'égard de la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louza Hannoun, qui s'est fait bousculer ou chahuter lors d'une manifestation à Alger. Voilà.
Alors là, je vais peut-être aborder une question, c'est la question la plus délicate dans ce genre de situation, et bien sûr, je ne demande pas forcément une réponse, mais peut-être une réflexion là-dessus. C'est quoi les perspectives aujourd'hui? Alors, après ton retour donc, d'Alger, les choses se sont un petit peu accélérées avec la démission donc, de Bouteflika. Il a été poussé, enfin du moins, je ne sais pas si lui est encore en état de... s'il est encore en état de quoi que ce soit, d'ailleurs. Enfin, il y a eu cette annonce de la démission de Bouteflika, et on a l'impression que au sein du régime, il y a des luttes, plusieurs luttes entre factions rivales. Mais bon, c'est pas nouveau. Ça, on sait que ce régime est traversé en interne par des contradictions dont on peut percevoir parfois les frissons, comme ça, dont on ne connaît pas très bien les tenants et aboutissants, enfin, quand on n'est pas des spécialistes. En tout cas, là, le Bouteflika a été mis hors circuit. Il y a une transition qui va être mise en place. Là encore, il y a des discussions pour savoir qui va tenir les rênes pendant la période de transition. Ensuite, l'organisation de nouvelles élections. On sait bien que... un des motifs récurrents de ce genre de situation, c'est le recours au vote, comme si l'élection allait régler tous les problèmes. Ça, c'est la carotte démocratique qu'on sort à chaque fois. Selon toi, quelles sont, pour pour la population qui aujourd'hui a participé massivement à ce mouvement, à ce Hirak. Donc, quelles sont les perspectives qu'on peut dessiner? Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que c'est à la lumière des printemps arabes, hein, Tunisie, Égypte, Syrie, Libye, bien entendu, en disant que chaque situation est particulière? Qu'est-ce qui peut se dessiner éventuellement là-bas?
Bon, évidemment, c'est toujours difficile de d'imaginer les scénarios possibles, ou en tout cas de les prédire, avec certitude en tout cas, sachant que la situation évolue d'heure en heure et que je n'ai pas eu le temps de m'informer aujourd'hui ni hier sur les derniers développements, donc je risque de dire quelque chose qui est déjà périmé, qui est déjà dépassé, mais... En tout cas, aux dernières nouvelles, avec l'application de l'article 102, donc la démission du président, le scénario qui est prévisible, en tout cas qui était sur la table, est-ce qu'il l'est encore ? Alors, je répète, je ne le sais pas, c'était que le président du Conseil de la Nation, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat en France, devienne un président par intérim et organise, sous 90 jours, de nouvelles élections présidentielles. Donc, ça, c'est la solution qui a été
institutionnelle, quoi.
Voilà, institutionnelle, qui a été poussée et mise en avant par toute une série de contestataires, de militants démocrates, on va dire, voilà, peu importe ce qu'on entend par démocrate. Ça semblait le compromis ou le scénario, la feuille de route la plus acceptable, sachant que, pour eux, hein, pas pour moi, sachant que dans une certaine gauche, hein, plutôt social-démocrate, voire un peu plus, ils ont eux-mêmes établi leur propre feuille de route qui, de toute façon, n'est pas incompatible avec celle-ci, hein, qui s'articule complètement en réalité et qui consistait à vouloir... instaurer une sorte de gouvernement de transition, alors avec des personnalités dites nationales qui feraient consensus. Qu'est-ce que le consensus ? Qu'est-ce que des personnalités nationales ? Sur quelle base est-ce qu'ils vont les appeler ? Est-ce qu'ils vont être élus ? On n'en sait rien. Mais disons que c'était un peu ça le scénario. Et qu'ensuite, eh bien, on allait vers une assemblée constituante pour ensuite revenir à la normale. Et donc, Deuxième République, et puis voilà, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir, on va avoir une bonne démocratie comme il faut. En fait, beaucoup fantasment sur ce qui se passe en France, peut-être jusqu'au mouvement des Gilets jaunes, mais je ne sais pas si ça a beaucoup changé au niveau de leur conception, en tout cas du point de vue des militants professionnels, des élus, qui se projettent tous d'ailleurs dans la Deuxième République. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé, enfin, je me permets d'ouvrir une parenthèse, ce qui m'a frappé, c'est la mais dans ce genre de situation, c'est assez compréhensible. C'est à quel point est-ce que les ambitions remontaient à la surface. C'est-à-dire que tous ceux qui ont été frustrés au cours des dernières années pensent aujourd'hui que l'horreur est arrivée. Ouais. Donc soit on va les appeler, soit on va faire appel à eux, soit ils se projettent dans des combinaisons politiciennes, dans des tactiques, des alliances éventuelles, sachant que tout ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais Ça m'a vraiment marqué, en tout cas. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Disons que, voilà, un des scénarios, ça serait ça. C'est-à-dire, pour ceux qui défendent aujourd'hui la Constitution, alors que, bon, franchement, défendre la Constitution algérienne, s'appuyer dessus, faut vraiment le faire, quoi. Mais, certaines personnes, aujourd'hui, voilà, la mobilisent, veulent s'appuyer sur tel ou tel article qui leur semble un peu plus démocratique que d'autres. Donc, ça serait un des scénarios. Donc, le scénario, disons, qui irait vers un changement, mais sans trop de bouleversement, c'est donc celui-ci. Donc, sous 90 jours, une élection présidentielle. Et ensuite, voilà, en attendant, tout le monde rentre chez soi. Et chez d'autres, qui sont un peu plus à gauche, un peu plus politisés, c'est l'Assemblée constituante. Voilà, c'est un peu ce qui est mis en avant aujourd'hui.
Je voulais te poser une question, tout à fait en restant dans ce que tu dis comme scénario possible. Il y a quand même un problème, c'est que tant que la population est dans la rue, c'est pas sa place quand même, bon, pour tout pouvoir, quel qu'il soit, même constituante, même transitoire. Donc est-ce que ce scénario peut être troublé par le fait que la population continue à être dans la rue ? Parce que dans la rue, c'est pas uniquement on peut se balader ou mettre des pancartes, si on discute quand même s'il n'y a pas de lieu, comme tu dis, vraiment précis. Donc c'est toujours très dangereux. Et est-ce que dans cette situation-là, bon, d'abord, est-ce que tu penses que c'est plausible que ça se prolonge pour que ce scénario ne se fasse pas aussi bien ? Et est-ce que, là c'est pareil, c'est difficile de faire des projections, mais moi l'impression que j'ai comme ça, à travers bien plus loin que toi, hein, je ne suis pas allé sur place, j'essaie de comprendre, l'impression que j'ai c'est que l'armée veut montrer qu'elle est là, d'accord, elle est aux côtés du peuple, mais elle maintient l'ordre, quand même. Bon, il y a des gens qui aspirent à un ordre, égale sécurité, etc. Quelle est l'attitude de l'armée? Et pour aller encore plus loin, est-ce qu'à ton avis, l'armée est quelque chose d'homogène? C'est quelque chose de très, très important, hein, au niveau, y compris au maintien de l'ordre. C'est largement plus important dans ces pays-là, même peut-être malheureusement chez nous, mais que la police, proprement dit. Est-ce qu'il n'y a pas des risques qui seraient peut-être positifs que... Au niveau de, je sais pas moi, des officiers, j'ai vu qu'il y avait des, mais c'est, je crois que c'était plutôt des anciens militaires qui sont venus qui sont venus quand même dans les manifestations, etc. Oui, donc est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que l'armée est aussi homogène qu'elle veut paraître?
Alors moi, voilà, je suis pas dans le secret des dieux. Donc non, mais dès qu'il s'agit de sources sécuritaires, de l'armée, des services et autres, moi j'ai pas mes entrées.
Bah
voilà,
oui,
j'ai pas mes entrées. Mais on peut évidemment imaginer, il y a peut-être des éléments qui permettent de l'attester, que dans cette situation, jusqu'à il y a encore quelques jours, est-ce que ça va se poursuivre? Je pense que tout le monde marchait sur des œufs. Personne n'était sûr de la fiabilité au sein de n'importe quelle institution. Ouais. Ce qui a permis peut-être de comprendre pourquoi le chef d'état-major Gaïd Salah a avancé tout doucement. Et s'est démarqué progressivement. Hein, il a essayé de voir comment est-ce que la situation allait évoluer. Et puis à un moment donné, il a compris que la population, de toute façon, n'allait pas accepter ni un cinquième mandat, ni un quatrième mandat et demi. Et c'est là qu'il a suggéré, là aussi, hein, il a suggéré, j'étais sur place, l'application de l'article 102. Donc la destitution, la démission du président. Moi, ce que j'ai vécu sur place, je peux en témoigner, j'ai pas de smartphone, donc je suis souvent déconnecté. J'attends de lire la presse ou de me connecter chez moi ou de discuter avec mes amis pour être informé. Mais j'ai pas compris ce qui s'était passé ce jour-là. C'est-à-dire, le moment de l'annonce, c'est un après-midi, j'ai senti tout de suite un climat de tension dans la ville, à Alger, avec des attroupements, des personnes qui discutaient, qui se battaient même. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où le chef d'état-major a parlé, là, on n'était plus dans l'euphorie. C'est qu'on sentait que les choses sérieuses allaient se profiler et qu'on allait se préparer soit à une confrontation, soit, et je reviens à ta précédente question, Mohamed, soit on risquait d'aller vers un scénario à l'égyptienne. Et ça fait partie des choses que moi-même, j'ai avancé assez tôt, parce que quand on parlait des scénarios possibles, on utilisait plutôt comme épouvantail le scénario libyen ou le scénario syrien. Voilà, évidemment, personne ne veut que l'Algérie s'oriente vers une telle catastrophe. Mais bizarrement...
Surtout qu'elle l'a déjà vécu.
Non, mais en plus, elle l'a déjà vécu. Oui.
Et, excuse-moi, mais là, on a vraiment l'impression que les militaires n'ont pas envie de refaire ce qu'ils ont fait en 91, quoi. C'est-à-dire interrompre un processus et puis prendre le pouvoir directement avec la catastrophe que ça induit. Oui.
Mais justement, là, j'ai pas, moi, les éléments. Seul l'avenir nous dira s'ils ne veulent pas, s'ils le veulent, mais ils ont des doutes sur la fiabilité de leurs troupes, ou alors, au contraire, ils ont peur d'une réaction négative de la population. Mais justement, bah, pour poursuivre ce que je disais, je vais te répondre également, c'est que, étrangement, dans les milieux militants, intellectuels et autres, on parlait très peu ni du scénario tunisien, notamment de la constituante qui traîne, qui ne règle pas la question sociale et qui permet justement à des caciques de l'ancien régime de refaire surface.
Oui,
voilà,
oui,
complètement. Donc ça, bizarrement, on n'en parle pas trop. On n'en a pas trop parlé, mais je pense qu'il va falloir en parler sérieusement là-bas et ici. Et on ne parlait pas trop non plus du scénario égyptien, parce que ça faisait peur. Ça faisait peur. Et ça voulait dire qu'à un moment donné, bah oui, on va devoir envoyer des messages à l'armée en disant « Vous restez à votre place ». Et ça me permet de revenir sur la très grande ambivalence que j'ai perçue sur place. Hein, donc il y avait beaucoup de slogans et je ne pouvais pas savoir à quel point ce sont des choses spontanées qui viennent de la population ou alors si ce ne sont pas des campagnes qui ont été poussées par telle ou telle officine. Il y avait cette aspiration à la fraternisation avec l'armée et la police. Bon, évidemment, moi, ça me faisait bondir. Mais qu'est-ce que... J'essaie de comprendre comment est-ce qu'on pouvait analyser ça. C'est que d'une part, il me semble que l'idéologie militariste, le militarisme en Algérie est assez, assez profond, assez puissant. Parce qu'il y a toute une série de familles, très nombreuses familles, qui vivent de manière directe ou indirecte de l'armée. Parce qu'ils ont quelqu'un qui travaille, etc., les pensions et autres. De l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire, voilà, vous les militaires, vous les hommes en uniforme, et femmes aussi, notamment pour la police, vous êtes du peuple, d'ailleurs, enfin, vous faites partie de, on est tous un même peuple, venez avec nous, rejoignez-nous, ou alors, à tout le moins, ne nous tirez pas dessus. Oui. Je pense qu'il y a cette ambivalence, elle est là aujourd'hui, sachant que pour le moment, comme... je pense que les Algériens ne veulent pas repartir dans une confrontation armée pour l'heure. Moi, je ne le souhaite pas non plus. Mmh. Ils veulent essayer de trouver les formulations et les moyens pour ne pas y aller. Et il est probable aussi que du côté des militaires, ce soit le cas également. Mais je tiens également à rappeler autre chose. C'est qu'il n'y a pas que l'armée en Algérie, il y a aussi la police. Et c'est la police qui, pour le moment... gère l'ordre. En tout cas, c'est plus l'armée qui s'en occupe. Et elle ne le fait pas toujours d'une manière très pacifique, même si leur doctrine, c'est la gestion démocratique des foules. Ça ressemblait un peu à ce qu'on a pu voir ici, hein, de ce côté de la Méditerranée. Quand on montait un peu trop du côté des hauteurs d'Alger, on s'est fait canarder avec un pote... par les lacrymogènes, hein, pas par des balles, heureusement, et foncer dessus par des blindés. Donc la police laisse faire jusqu'à un certain point, mais elle est là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble qu'elle a envie de serrer la vis en ce moment. Ouais. Hein, donc toute cette effervescence, ça commence à fatiguer les tenants du pouvoir, les bourgeois et autres, et ils ont envie que la populace rentre chez elle, et que tout reprenne comme avant finalement. Voilà, donc, non, du point de vue des services de sécurité, de l'armée, de la police, faut avoir des éléments d'information dont je ne dispose pas.
D'accord, une dernière pause musicale et puis il nous restera une dernière séquence.
Rock شوية وخدوا الطيارات وطلقوا البومبات على الناس المجرمين ننكروا كان السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Mohamed, est-ce que tu peux nous dire ce que nous venons d'écouter là, s'il te plaît ?
Avec plaisir, Monique. Il s'agissait de Rock the Casbah, un titre des Clash merveilleusement interprété par Rachid Taha. Et puis ça tombe bien parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a du rock dans la Casbah à Alger. Il y avait deux ou trois points que tu voulais évoquer justement sur ce qui se passe actuellement en Algérie. La question de l'unanimisme.
Oui, qui me semble comme celle du nationalisme d'ailleurs. Enfin, ça fait partie des échanges que j'ai pu avoir. Parce que ce qui est vraiment impressionnant là-bas, c'est en particulier le vendredi, mais pas seulement le vendredi, c'est de voir partout les drapeaux algériens. Mais pas seulement. C'est là où je voulais également apporter un complément. Il y avait aussi le drapeau amazigh, donc le drapeau berbère, qui était très présent lors des marches du vendredi, et ce qui, à mon sens, témoigne d'une révolution symbolique, puisque imaginez cela après la répression du printemps noir de Kabylie en 2001 à Alger, où il y a eu des tensions et un ressentiment très fort contre les Kabyles, contre les Berbères en général. Ça montre aussi que les mentalités ont évolué au cours des dernières années, et plutôt dans le bon sens, et plutôt justement dans le sens de l'acceptation d'une Algérie plurielle. Alors, avec des limites là encore, puisque ce qu'on appelle en Algérie les constantes nationales, enfin ça c'est le discours des autorités, c'est l'islamité, la berbérité et l'arabité. Bon, une des questions que j'avais posées quand j'ai présenté mon bouquin sur place, c'est est-ce qu'on peut être algérien ou est-ce qu'on peut vivre en Algérie mais ne pas accepter ou ne pas adhérer à ces constantes nationales, notamment du point de vue de la religion. Et on m'avait répondu au premier rang, ah, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense que c'est une question qu'il faut poser aujourd'hui, enfin qu'il faut avancer, et ce qui me permet aussi d'évoquer, encore une fois, sans trahir de confidence ni l'identité de mes interlocuteurs, mais j'ai eu l'occasion à chaque fois que possible de discuter de la question de la séparation de la religion et de l'État, hein, même si moi j'aimerais aussi qu'on se sépare de l'État.
Ce qui s'appelle la laïcité.
Voilà, ça s'appelle la laïcité, pour utiliser le gros mot, ou le sécularisme, peu importe. Et en fait, oui, j'avais des réponses, notamment chez des personnes très engagées dans le mouvement, plutôt démocrates, qui me disaient « oui, mais c'est pas le moment ». C'est pas le moment parce que ça va diviser, ça va fâcher. Et il faut d'abord qu'on chasse le président, bon maintenant on l'a chassé, ou qu'on chasse ce régime ou ce système, et ensuite on va voir. Et ça, ouais,
c'est bon. C'est un vieux discours qu'on tient depuis très longtemps sur plein d'autres questions, pas uniquement sur celle-là.
Et justement, alors bon, je ne veux pas non plus développer ce que j'ai eu, justement des débats et des discussions très intéressantes avec des personnes qui pouvaient être croyantes ou pratiquantes, mais qui comprenaient la nécessité d'effacer l'article de la Constitution qui dit que l'islam est la religion d'État, puisque c'est absurde qu'un État ait une religion. Et qu'il faut, au contraire, ils étaient sensibles à des arguments pour une neutralité bienveillante ou une séparation sous différentes formes. Mais l'autre aspect de l'unanimisme que j'ai retrouvé, c'est également, lorsque j'étais témoin, lors de la dernière manifestation à laquelle j'ai assisté le vendredi, de l'agression du carré féministe à Alger, juste à côté de la fac centrale, où j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Donc il y a eu une confusion la plus totale. Bon, je veux pas faire le récit tout à fait hein, des événements, mais parmi les arguments que j'ai entendus de la part d'hommes, hein, il y a beaucoup d'hommes du coup qui sont arrivés à ce moment-là, c'était que les féministes, donc les femmes qui défendaient notamment l'abrogation du code de la famille, entre autres, hein, dans mes souvenirs, eh bien elles divisaient le mouvement. elles divisaient le mouvement parce que physiquement déjà elles étaient à part, elles n'étaient pas dans la marche. Donc déjà, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de manifester, c'est quelque chose qui apparaît saugrenu en fait, pas approprié du tout, surtout dans cette ambiance euphorique, patriotique, etc. Et j'ai entendu également de manière très explicite des paroles antiféministes, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui disait mais l'égalité homme-femme, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et j'ai entendu plein d'autres choses également, hein. On m'a fait d'autres confidences, notamment sur le fait qu'il y avait eu, dès la marche du 8 mars, donc celle où les médias français et internationaux ont loué la participation massive des femmes et la bienveillance, l'extrême bienveillance des manifestants hommes à l'égard des femmes, eh bien apparemment c'était pas aussi bienveillant que ça. Mais là encore, moi-même, je n'étais pas au courant, c'est sur place. On m'a fait des confidences, on m'a appris des choses. Et donc, certaines féministes ont refusé de rendre public les attouchements et les agressions qui ont eu lieu dès le 8 mars. Donc, ce n'est pas lors de la manifestation à laquelle j'ai participé. Pour deux séries d'arguments. Premier argument, c'est qu'elles avaient peur d'être accusées de diviser le mouvement. Deuxième argument, c'est que si on rendait public ces agressions et ces attouchements, eh bien, les pères, les frères et les maris pouvaient empêcher les femmes d'aller manifester. Mmh. Et cette opinion, elle existe aussi à la gauche et à la gauche de la gauche en Algérie. Faut aussi bien comprendre aussi le climat dans lequel on est. Mmh. Mais c'est des discussions qu'on a eues en toute franchise avec des militants qui étaient d'ailleurs prêts à répondre à l'appel des féministes s'ils avaient besoin de faire un carré et qu'il y ait éventuellement un service d'ordre. Donc ces débats-là commencent à arriver. Donc la question sociale, la question de la religion, la question sexuelle, la question politique, de quelle démocratie aussi on veut en Algérie, sachant que il y a une très grande frustration à l'égard de la démocratie représentative, puisque les Algériens ont eu le sentiment, et ce n'était pas qu'un sentiment, de se faire voler la seule élection plurielle, donc après octobre 88, où ce sont les islamistes qui étaient devant, puis interruption du processus électoral par l'armée. Et donc il y a chez certains l'idée qu'il faudrait remettre en place, il faut qu'il y ait des partis. Il faut qu'il y ait de bonnes élections propres et qu'on ait un bon président. Donc ça serait le summum de la démocratie pour l'Algérie. Mais moi, je pense qu'au contraire, on peut aller beaucoup plus loin et qu'on peut aller beaucoup plus loin dans la critique de la démocratie représentative. Voilà ce que je voulais évoquer sur l'unanimisme, sur ce patriotisme et ce nationalisme qui inhibe y compris des militants ou des individualités de la gauche et qui ne savent pas comment se démarquer de peur justement d'être accusés de diviser.
Avant de laisser la parole à Serge, je voudrais juste te poser, t'inviter à nous présenter le numéro du dernier CQFD, celui du mois d'avril, qui consacre un excellent dossier à l'Algérie.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un jingle pour la
3,
publicité.
3-4 minutes, allez.
Voilà, ou l'autopromo.
Publicité Radio Libertaire, mais c'est pour un journal ami, donc on peut...
Voilà, un journal ami auquel, on le sait, je collabore de temps en temps, comme maintenant je collabore aussi au Monde Libertaire, mais pas seulement. Je salue aussi mes amis de la révolution prolétarienne. Donc CQFD de ce mois consacre un dossier spécial à l'Algérie. Donc on a, je crois qu'on a au moins 6 pages, mais plus que ça, qu'est-ce que je raconte, on a 9 pages sur l'Algérie, donc avec un dossier qui est introduit par Mathieu Léonard, qui d'une manière très intelligente détourne un slogan qui vient du mouvement du printemps noir, donc de 2001. Alors je sais pas si vous vous rappelez, c'était « Vous ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà morts ». C'était ça le slogan qui était porté par les manifestants, et là le titre c'est « Vous ne pouvez pas nous tuer, vous êtes déjà morts ». Et donc il introduit le dossier où il y a donc un historique sur les marches, donc où on a des descriptifs assez intéressants sur ce qui s'est passé à Alger, mais pas seulement à Alger, un article qui revient sur l'humour des Algériens, sur ce qu'on retrouvait, c'est vrai, hein, dans au niveau des slogans dans ce mouvement. Alors l'humour n'est pas propre aux Algériens et il n'est pas non plus propre à ce mouvement, et une des banderoles qui était déployée sur la place Maurice Audin et que j'ai vu, c'est Gulnar Guerre, c'est guerre, c'est-à-dire nous avons dit tous, c'est tous. Sous-entendu, ça veut dire, nous avons dit qu'ils dégagent tous, c'est tous. Mais demandez à vos amis algériens de vous raconter une blague qui se termine par « guerre, c'est guerre ». Je ne peux pas la raconter à l'antenne de peur de susciter des réactions hostiles. Donc, j'ai également écrit un article sur le slogan « FLN dégage », sur sa signification, sur l'origine du FLN. Il y a aussi une interview avec Sarah Haïdar, qui est une écrivaine algérienne libertaire et féministe, dont deux de ses ouvrages ont été publiés en France récemment chez Métagraphe, mais aussi chez Libertalia. L'ouvrage paru chez Libertalia s'appelle « Virgule en trombe ». On a également un reportage de Michael Correa, qui était initialement parti pour couvrir le derby entre les deux clubs algérois, l'USMA et le Moulia d'Alger.
Et il s'agissait de football.
De football, bien sûr, évidemment. Et qui restitue des discussions assez intéressantes d'ultra qui ont décidé que le moment était tellement important en Algérie, ils ont préféré rester dans la rue plutôt que d'aller au stade. Donc, ce qui montre qu'on est quand même dans une situation historique et inédite. Et également, dernière évocation, c'est une interview très intéressante de Adlan Mehdi, qui a publié un polar qui s'appelle 1994 en Algérie, mais aussi en France chez Rivage, et qui raconte justement que sa génération était peut-être passée à côté de quelque chose, donc de toute cette effervescence et toute cette autonomisation de pans importants de la société, et qui raconte ce qui explique son point de vue, et c'est un entretien extrêmement intéressant. Voilà pour la séquence publicité. Je salue l'équipe de CQFD d'ailleurs au passage.
On va beaucoup te remercier, parce que l'équipe Saveur Jabot de la Seine est juste après nous, là, ils sont là. Je sais pas, je rappelle quand même que tu as écrit un très beau texte avec Mohamed Harbi, l'Algérie au bord de l'éclosion, et on espère avoir quelques fleurs qui vont fleurir. Enfin, de toute façon, il y en a déjà pas mal, j'imagine.
Et
sans doute, on aura l'occasion de te demander de revenir. Voilà, je remercie Mohamed.
C'est moi qui aime beaucoup. Merci Najib. En tout cas, la situation reste à suivre, et on a encore plein de questions. Il y a certainement pas de réponse à toutes ces questions, mais justement, c'est le propre d'une situation ouverte qui évolue, et on suivra ça de près, en sachant toutes les difficultés qui peuvent être liées à ce genre de moments particuliers. Merci Najib. Ouais,
merci à vous.
Merci.
Merci. Et on va se quitter avec la compagnie Jolie Môme, sans la nommer. Au revoir.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, d'une fille bien vivante qui se réveille. Des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on attaque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai aux fruits sauvages. Une fille bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté ouvrant le sang. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout.
Jusqu'au bout,
je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente.
Pour les marins révoltés du Potemkin, le soviet pacifiste écrasé à la courtine, les mutins de Craon, Sacco et Vanzetti, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, les 6 millions de grévistes de 1936, les mineurs d'Oviedo, les volontaires des brigades internationales, le courage de nos frères anarchistes, les résistants, Manouchian, ses 22 camarades, les FTP Moy, les victimes. victimes du massacre de Sétif, les manifestants algériens assassinés dans Paris le 17 octobre 1961, les manifestants piétinés à Charonne, Victor Jara, les 9 millions de grévistes de 1968, le Che et ses guerrieros, les dockers de Liverpool, les travailleurs de Séoul, le peuple kurde, les peuples de Bolivie, du Venezuela, de Cuba, d'Équateur, du Nicaragua, en lutte contre l'impérialisme. Le peuple algérien, le peuple afghan, argentin, les peuples de l'ex-Yougoslavie, le peuple tchétchène, le peuple des deux Corées, du Rwanda, du Soudan, de Sierra Leone, de Somalie, le peuple sahraoui, les paysans sans terre du Brésil, les Indiens du Chiapas, de Oaxaca, Léonard Pelletier, Moumia Abou Jamal, les victimes de la peine de mort, Carlo Giuliani, abattu par la police capitaliste de Berlusconi à Gênes, Joël Aubron, ses camarades d'Action Directe toujours emprisonnés, Nathalie Ménigon, Jean-Marc Rouillant, Régis Schlecher, Georges Cipriani, 20 ans de prison, ça suffit.
Sachant qu'un train qui trompe à 17h...